Diable Oval sans ellipse, la première de l'année depuis Villefranche, avec autour de la table, au milieu de la table, Claude Devezin, et autour de la table, Christophe Pourcel pour l'Union des démocrates indépendants, Guy Pezet pour Europe Écologie Les Verts, Jean-Sébastien Orcibal pour le Parti Radical de Gauche, conseiller régional, s'il vous plaît, chapeau, et on y reviendra, et Laurent Tranier pour les Républicains. Bien sûr, nous serons tous d'accord pour vous souhaiter une bonne année, qui va être sereine et tranquille, sans élection, par quelques primaires à la fin, mais bon, on va pas... Et donc, on est là pour tirer, justement, le bilan des élections régionales. Élections régionales qui ont vu des bouleversements, puisque à gauche, puisque les listes qui restaient en lice, pour le deuxième tour, étaient le Front National, n'avait pas recomposé, les Républicains, l'Union de la droite, pardon, n'avait pas non plus à recomposer. En revanche, la liste qu'on appellera du Parti Socialiste avait à recomposer, avec notamment la liste Europe Écologie et Verts, mais qui contenait aussi
Nouveau Monde en commun,
qui contenait aussi des représentants du Parti de Gauche. C'est comme ça que Monsieur Sériès a retrouvé une troisième place dans la liste d'Union de la Gauche, ce qui a chassé Monsieur Orcibal du Parti Radical en cinquième place, qui, grâce au succès de sa liste et au système électoral, ne l'empêche pas d'être conseiller régional. Alors, je voudrais déjà que, dans un premier temps, vous nous narriez un petit peu, encore que j'avais vu les choses se passer autour de mon micro à Rodez, puisque il était très clair que les choses étaient déjà réglées avant le premier tour entre la liste Europe Écologie et Verts, Parti de Gauche, et la liste du Parti Socialiste. J'avais même vu M. Sériès, alors qu'il était apostrophé par les gens de Nouvelle Donne, leur dire qu'ils n'avaient tenu qu'à eux et qu'ils avaient refusé la main qu'ils leur avaient tendue. Je ne sais pas si après ils auraient trouvé à s'incorporer dans la liste d'Union de la Gauche et à quel niveau. Étant entendu que d'ailleurs, il n'est pas forcément grave de ne pas être élu tout de suite, puisque vous avez coutume à gauche, je me tourne vers deux des participants, de faire tourner, et il y a un certain nombre de gens qui démissionnent pour laisser monter le suivant de liste. Alors je ne sais pas si vous maintiendrez cet usage cette année. Alors déjà, sur la façon dont se passent les négociations entre deux listes pour les faire fusionner, Monsieur Orcibal.
Bien, tout d'abord, bonne année à toutes et à tous. Plus précisément, par rapport à votre question, comment ça se passe pour les fusions, mais déjà, d'abord, il y a une campagne. Il y avait une liste PS-PRG, Parti Socialiste, Parti Radical de Gauche. Je tiens à le préciser, puisque la campagne a été commune. Le Nouveau Monde a également fait une campagne. Et il est vrai qu'à l'issue du premier tour, eh bien, il y a toujours des négociations qui peuvent exister, justement, pour pouvoir, au final, pouvoir gagner cette nouvelle grande région. À aujourd'hui, je pense que dans le premier tour, du moins de ce que j'en ai vu, puisque j'ai participé pleinement à la campagne à Villefranche, je pense qu'on a toujours respecté nos alliés de Nouveau Monde, puisque concrètement, même si on était sur des idées différentes, certaines fois, il y avait aussi un socle commun, et même sur l'affichage ou autre, je pense qu'on a toujours veillé à se mettre à côté et pas à leur arracher concrètement toutes leurs affiches.
Je crois que c'est interdit d'afficher maintenant.
Ah si, maintenant on a le droit d'afficher à la fois sur les affichages dédiés aux campagnes électorales, mais également sur l'affichage public, puisque c'est autorisé depuis quelques années. Donc on en a bien profité, n'est-ce pas, Monsieur Tranier, où on a utilisé l'ensemble de nos capacités.
Et vous avez participé à la déforestation, alors?
Non, c'est du papier recyclé, vous inquiétez pas. J'en avais parlé avec Guy. Non, c'était une blague. En ce qui concerne ce premier tour des idées différentes, bien sûr, mais un socle commun. Et en effet, au second tour, eh bien, il y a eu des discussions. Dans ces discussions, en effet, notre liste PS-PRG a fusionné avec la liste Nouveau Monde. Et comme vous l'avez rappelé, j'étais en place numéro 3 et je suis passé en place numéro 5 puisque Guillaume Sériès a intégré cette place numéro 3. En effet, il y a un système de parité où quand la tête de liste est un homme, eh bien les nombres impairs, le 1, le 3, le 5 sont pour des hommes. Ouais. Et Guillaume Sériès étant un homme, eh bien il a intégré la place numéro 3 et donc j'ai décranté un peu. Sur l'Aveyron, ça a été ce cas-là. Dans d'autres départements, mais ça a été différent. Dans ce cas-là, Nouveau Monde a été intégré après le PRG. C'est une négociation. Chacun doit faire des concessions de façon à ce que tout le monde puisse s'entendre dans l'avenir. Et c'est ce qui a été fait. Ensuite, pour terminer sur cette cinquième place, elle dépendait de l'importance du score pour Carole Delga. Mais ce score a été fait puisqu'il y a eu une forte participation.
Alors, on va venir à l'analyse des résultats après. Notons que sur la liste en question, la liste du deuxième tour, trois personnes ont été intégrées, au détriment de trois autres, bien entendu. Trois personnes d'Europe Écologie et Verts et Parti de Gauche ont été intégrées à la liste d'Union de la Gauche. Alors le résultat, mais on verra le résultat après, alors à moins que quelqu'un veuille commenter ce qui vient d'être dit, bien sûr.
Mais moi, je voulais dire qu'il y a eu la campagne, il pouvait y avoir des oppositions assez importantes, parfois, entre Nouveau Monde en commun et le Parti Socialiste PRG. Mais en même temps, il y avait quand même des gens, même comme Onesta ou Carole Delga, qui étaient déjà quand même dans la même assemblée précédente et qui avaient travaillé dans l'assemblée régionale depuis 7 ans ensemble dans les mêmes commissions. En particulier, Gérard Onesta était vice-président déjà de la région. Donc il me semble aussi qu'il y avait quand même une habitude de travailler en commun. Ce qui changeait, c'est qu'en fait le Parti socialiste et ses alliés, ils ne pouvaient pas être majoritaires cette fois. C'est quand même un grand changement. Ils ne pouvaient plus être majoritaires, même au second tour, ils ne pouvaient pas avoir de majorité s'il n'y avait pas de discussion d'alliance. Et nous, je voyais pas le Nouveau Monde en commun prendre le
voyons d'ailleurs les résultats, parce que effectivement ça semble avoir
changé
été
quand
probant,
énormément. Hein,
puisque au deuxième tour il y a 20 000 personnes de plus qui votent. Les listes qui ne sont plus représentées représentent à peu près 25 000 personnes. Bref, il y a 46 000 voix à se répartir entre les trois listes qui subsistent. Et en l'occurrence, la liste d'Union de la Gauche a pris 30 000 voix de plus, c'est-à-dire qu'elle a doublé, purement et simplement, son score entre le premier et le deuxième tour. La liste d'Union de la Droite a augmenté son score de 28%, ils ont pris 9 500 voix de plus. Et le Front National a pris 27% de plus, avec 6 600 voix de plus. Apparemment, vraiment, il ne manque personne. Sur les 46 000 qu'il y avait à se répartir, tout le monde a trouvé son choix dans l'une des trois listes. Alors on doit observer aussi que la liste d'Union de la Droite était arrivée en tête au premier tour dans tout l'Aveyron, mais pas à Villefranche-Thorouergue, et pas un peu, puisque l'écart c'est 15% pour la liste du Parti Socialiste, 11% pour la liste d'Union de la Droite. Je crois que j'ai résumé à peu près ce qu'il y avait à tirer de ce scrutin, des chiffres. Je vous laisse les commenter. Monsieur Pourcel, pour l'Union des démocrates indépendants.
Bonsoir à tout le monde et bonne année à tous. C'est vrai que pour nous, déjà, il y avait eu un choix national d'une union dès le premier tour, avec pour notre région la particularité d'une primaire, avec un collège de grands électeurs. Donc Dominique Régnier a été élu par ses pairs et donc il a dû constituer des listes départementales. Le mode de nomination sur la liste nous a un petit peu échappé, nous, au niveau local, puisqu'il ne s'est pas du tout appuyé sur les fédérations existantes. Voilà, ce qui a un peu permis un petit essoufflement pendant la campagne.
En filigrane, j'entends dire qu'il n'y avait pas de Villefranchois.
Non, c'est vrai.
C'est dans les films, oui. C'est
d'accord, voilà. Il a fallu compter sur le Parti radical de gauche et pour avoir, heureusement, un représentant Villefranchois. Parce que je pense qu'avec cette grande région, nous avons bien besoin de représentants locaux qui puissent défendre quand même nos intérêts. Même s'il est élu de la région, c'est un élu du Villefranchois à la région.
Voilà. Monsieur Tranier, vous pensez que c'est ce qui a coûté la première place à Villefranche ou c'était plus général ?
Bonsoir à tous et meilleurs voeux à tous les auditeurs. Bon,
monsieur Devezin,
vous nous amenez à nous replonger dans cette élection régionale qui semble déjà un petit peu lointaine, c'est vrai. qui s'est déroulé dans un climat de confusion, je dirais. Parce qu'en fait, on a été privé d'une véritable campagne sur des enjeux proprement régionaux, pour différentes raisons que l'on connaît. Hein, les circonstances tragiques des attentats du mois de novembre ont interrompu la campagne, qui se déroulait juste avant Noël, au moment d'une COP21 qui était peut-être à dessein d'ailleurs, organisée en même temps que les élections, ou les élections en même temps que la COP21. Le but du pouvoir socialiste, c'était de limiter les dégâts. On dira qu'au niveau national, les dégâts pour la gauche ont été relativement limités. Mais le prix de tout cela, c'est la confusion dont on n'est pas vraiment sorti, puisque chez nous, dans notre nouvelle région, les vainqueurs très divisés au premier tour, puisqu'ils étaient divisés en 3-4 listes différentes, d'accord sur très peu de choses, se sont retrouvés de façon complètement artificielle et en même temps programmée, comme vous nous l'avez expliqué au départ, entre les deux tours, pour éclater de nouveau au lendemain du scrutin. Puisqu'aujourd'hui, à la région, nous avons, je crois, trois groupes, ou peut-être quatre, qui appartiennent à cette majorité, qui va manquer de cohésion, bien sûr. Il faut bien distribuer des places à tout le monde. C'est malheureusement le travers de ce type d'élection qui se déroule par scrutin de liste, même si elle peut aussi avoir l'avantage de représenter certaines formations politiques et qui ne le sont pas dans des scrutins majoritaires. Oui. Donc, il y a cet avantage-là, bien sûr. Il y a ce travers de petites négociations d'arrière-salle entre les deux tours au lendemain d'une élection. Donc, aujourd'hui, un exécutif fragile.
On va voir après comment s'organise la région telle qu'elle a été élue. Mais ce que je note quand même, c'est que au plan de l'Aveyron, ces gens dispersés qui s'en vendaient pas, ils doublent plus simplement leur score au 12e tour. À Villefranche, ils ne font que 50% de plus.
Oui, j'y viens sur le sujet local. Simplement pour dire que cette région affaiblie, faute d'une majorité vraiment cohérente, maintenant elle doit travailler, et là aussi on ne sait pas trop ce qui va nous être proposé, mais laissons-les se mettre en place et attendons de voir. Au niveau local, moi je regrette aussi évidemment qu'il n'y ait pas eu de représentants sur la liste de l'Union de la droite et du centre de l'Ouest Aveyron, du Villefranchois. Certainement ça nous a coûté cher. Je crois que Dominique Régnier était un bon candidat tête de liste, issu de la société civile. C'était aussi un néophyte en politique, et je pense qu'il a payé cette inexpérience en étant peut-être victime de gens qui, y compris dans sa famille, ne lui voulaient pas forcément du bien. D'un certain défaut d'organisation de la campagne. Je le regrette, c'est comme ça. Après, sur le score, notamment au second tour, il faut se souvenir du contexte, qui était quand même très spécial, avec un Front National qui était présenté comme un épouvantail partout en France. C'est d'ailleurs la stratégie de longue date du Parti Socialiste en particulier, d'essayer de se confronter au Front National, ce qui permet d'éviter de parler de tous les vrais sujets, puisque l'enjeu, c'est à chaque fois de sauver la République, donc c'est soit nous, soit la République qui est en danger. Pour l'Aveyron, pour la région, je crois que Dominique Régnier, au second tour, a subi aussi les conséquences de cette situation où un certain nombre d'électeurs ont considéré que le vote utile, entre guillemets, pour faire barrage au Front National, c'était de se reporter sur la gauche. Donc le résultat a été décevant au second tour pour la droite et le centre, bien sûr.
Monsieur Peset, pour l'Europe Écologie et Vert, qu'est-ce que sur ce score, parce que on nous dit il y a des, mais enfin encore une fois, moi je suis frappé. En Aveyron, la liste du nom de la gauche double ses voix entre les deux tours. Non, fait 50% de plus à Villefranche-sur-Oise.
Mais il y a, enfin, Bon, je pense que M. Trani a raison quand même de rappeler qu'il y a eu des circonstances tout à fait particulières durant toute cette campagne, qui a été arrêtée un moment avant le premier tour, et qui, avec le second tour également, donc avec cette montée du Front National, mais qui était attendue, prévisible, donc a encore bouleversé un peu les cartes. Et je crois qu'il y a un effet vote utile qui a profité à la liste Carole Delga. Quand on analyse le premier tour, du point de vue du Nouveau Monde en commun, le seul mérite qu'on peut y trouver, c'est qu'on a été au second tour, alors qu'on n'est pas dans les autres régions, qu'ils aient qu'Europe Écologie ait fait alliance avec le Front de Gauche, ou qu'ils n'aient pas fait d'alliance, ou qu'ils aient des alliances avec d'autres partis. C'est la seule région où, finalement, nous pouvons apparaître avec un peu plus de 10%. C'est pas énorme, quand même, hein. C'est pas le résultat qu'on attendait. 10%, mais qui nous permet d'exister et qui nous permettait donc ensuite de rester dans le jeu. Et bon, après je suis un peu d'accord, après il y a un effet vote utile. Ensuite, moi je ne trouve pas désespérant pour répondre à ce que Monsieur Tranier disait. Je trouve plutôt intéressant qu'il y ait plusieurs groupes, ils y étaient déjà, plusieurs groupes. Il y avait déjà un groupe Europe Écologie de 17 personnes à l'Assemblée de régionale, mais simplement le Parti Socialiste avait le pouvoir tout seul, ce qui est très différent maintenant. Et bien maintenant, il y a quand même un groupe Front National qui sera très fort, il y a quand même un groupe PS, il y a le groupe Parti Radical, Europe Écologie Les Verts, il y a eu des accords, et il y aura la démocratie va s'exercer, et plus peut-être qu'elle ne s'exerçait avant, dans ces assemblées qui étaient majoritaires, où on a appris quand même que pas mal de gens ne siégeaient pas. Je crois que même Antenne 2 ou France 3, ça n'était fait l'écho. Il y a des gens qui étaient à moins de 50% de présence. Là, je pense qu'on va être obligé quand même de revenir à un peu plus de...
Pourquoi les gens seraient-ils davantage présents aujourd'hui qu'avant?
Déjà à cause des nouvelles mesures sur l'absentéisme, puisque ça, une des premières mesures qui a été votée, et qui pour moi est très bien,
On avait une charte éthique et on a essayé de l'imposer un petit peu, enfin l'imposer, de la proposer, et elle a été acceptée au groupe donc Parti Socialiste, Parti Radical de Gauche, pour essayer de changer ces choses-là, que les gens vraiment n'aient pas plusieurs mandats si possible, alors il y en a qui en ont plusieurs encore, et qu'ils siègent régulièrement. Et d'autre part, les votes ne seront pas acquis nécessairement, contrairement à ce qui était le cas, il faudra qu'il y ait des débats. Et je crois qu'il y a dans la société française, plein de débats à mener, effectivement. Et je crois qu'au Parti Socialiste sont d'accord, même si après tout le monde, même au Parti Socialiste, n'a peut-être pas les mêmes positions, mais il n'est pas là pour nous en parler.
Alors, monsieur le conseiller régional.
Je vous remercie.
Sur l'analyse des chiffres.
Oui, tout d'abord, je voulais réagir par rapport à la multiplicité des risques, des listes. À aujourd'hui, pour nous, les radicaux de gauche, on est clairement pour de la proportionnelle. La proportionnelle, c'est qu'il y ait une représentation des diverses tendances politiques dans le monde français. Donc, de fait, on est pour une multiplicité des candidatures au premier tour, puisque c'est réellement la vie démocratique qui s'exerce et où chacun peut dire ce qu'il pense. Quand on entend des critiques de certains citoyens qui disent « je ne me reconnais pas, je ne me reconnais dans aucun parti politique », c'est sûr que si on leur présente que le système des deux grands partis qui existent, PS et UMP, et qu'on ne leur propose pas la variété de tout ce qui peut exister, notamment des petits partis...
11 en l'occurrence.
Tout à fait. Quelque part, ça limite les choix et ça peut limiter également leur intérêt pour la vie politique. Donc je trouve qu'au contraire, c'est une richesse qu'il y ait une multitude des candidatures. Et à ce titre, c'est vrai qu'on combat ce phénomène de bipartisme qui peut s'installer avec une union qui peut être faite dès le début, typique de ce qu'on reconnaît la Ve République. Aussi, quand on voit le score du Front National et qui a tendance à ne citer comme seul argument que l'UMP-PS, c'est une manière aussi d'aller à l'encontre de ce type d'argument et de dire qu'il y a une véritable diversité et que la seule voix qui peut exister n'est pas la voix du Front National, mais qu'elle peut être celle de l'Europe Écologie Les Verts, celle des radicaux valoisiens ou des radicaux de gauche, pourquoi pas. Donc, et c'est ça le mérite de se présenter au premier tour de manière diverse. vous faites écho des chiffres de report au second tour et également d'une progression plus importante pour la gauche. Ben oui, c'est un fait, il ne faut pas se voiler les choses. Il y a des absentéistes à gauche au premier tour et on a une faculté plus importante à gagner quand il y a deux tours. C'est une vérité. Et à ce titre, on sait l'entendre et ça nous sert de leçon. Et on le voit que ça soit au niveau municipal, où quand il y a un tour, ça ne nous sert pas forcément, ou mais également sur d'autres campagnes qu'il peut y avoir. Donc on a vocation à avoir deux tours pour pouvoir rassembler le plus largement autour de nous. Voilà.
Alors, le résultat de tout ça, c'est que en Aveyron, la Union de la gauche fait 27% des voix, l'Union de la droite fait 20% des voix, et le Front National fait 14%. Et donc, je constate, il ne s'agit pas de... avec ces 27%, l'Union de la gauche a 5 élus, dont M. Orcibal. L'Union de la droite a 2 élus, si j'ai bien compris, quelqu'un des Républicains, M. Régnier, et quelqu'un de l'UDI, Mme Monessier-Charry. Et le Front National a un élu. Alors, ma question, mais à traiter rapidement, c'est, je suppose que c'est un effet cumulatif et du gros succès, parce qu'il faut appeler ça un gros succès, de deuxième tour de la gauche, et du système. Est-ce qu'un moins bon score de la gauche, mais tout de même en tête, aurait permis d'avoir 4 représentants et 3 chez l'Union de la droite? C'est ça ma question, en gros. Est-ce que la répartition aurait pu changer? Et je vois, vous vois tous opiner positivement du chef.
Oui, effectivement. Le mode de scrutin est assez complexe pour déterminer le nombre d'élus dans chaque département. Il dépend à la fois de la victoire à l'échelle de la région et puis du nombre de voix dans chaque département. Il faut souligner en effet qu'au second tour il y a quand même eu un très fort sursaut de participation. Quant à l'argument de M. Orcibal sur la multiplication des listes, je pense qu'il parle pour d'autres listes que la sienne, puisque le PRG est quand même, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de la région, en permanence sur le porte-bagage du Parti Socialiste. Et quand il n'y est pas, c'est parfois un peu sanglant au niveau des résultats. Si on se souvient de la primaire à gauche en 2012, donc ça remonte un petit peu, mais M. Baillet, votre président qui concourait, je crois, avait obtenu pas tout à fait 1% des voix à la primaire que de la gauche. Voilà. Donc, en même temps, cette diversité d'offres qui étaient proposées n'avait pas forcément aussi trouvé tout son électorat. Mais, M. Orcibal, je reviens à une question toute initiale de M. Devezin, à laquelle vous n'avez pas répondu. Il soulignait le fait que, effectivement, dans les listes de gauche, qui sont donc composées, on l'a expliqué, c'est une sorte d'amalgame artificiel qui se constitue entre les deux tours, ne vous en déplaise, oui, c'est quand même la réalité de la situation. Il y a parfois un jeu de chaises musicales où, en cours de mandat, des élus quittent la région pour permettre à des personnes qui n'étaient pas élues, qui sont un peu plus loin sur la liste, de devenir conseillers régionaux. Donc, M. Orcibal, est-ce que vous êtes un conseiller régional pour 6 ans ou est-ce que votre sortie est déjà programmée?
Honnêtement, je n'ai pas de sortie programmée pour faire monter quelqu'un derrière moi, surtout que le prochain ne sera pas forcément un PRG et on serait bien metté quand même.
C'est vrai que ça nous manquerait.
Donc, par rapport à ceci, je pense qu'un des principaux moments où des gens laissent leur place. Alors peut-être que vous aviez d'autres idées en tête, mais c'est quand il y a des élections où il peut y avoir un cumul de mandats qui peut être effectué. Et en effet, aujourd'hui, la loi sur le cumul des mandats est stricte et elle va être encore durcifiée au mois en 2017. Et donc, en effet, il n'y aura
ça
pas de
cumul. Ça fait 20 ans qu'on l'a durci et ça fait 20 ans que ça ne change pas grand-chose.
En tout cas, elle s'améliore au fur et à mesure. Donc voilà, je pense que c'est par rapport à ce genre d'hypothèse que vous parliez de se désister. Ben, en effet, ça me semble logique de ne pas cumuler les mandats. Voilà.
Bien, ben on verra. Je rappelle simplement, historiquement, que jusque-là, j'ai vu la liste de gauche régionalement, je ne parle pas des gens apparaître parce que d'autres sortaient. C'est peut considérer ça comme un avantage.
C'est des petites variations. Ouais, moi, je ne connais pas suivi en détail, mais il semble que c'est des petites variations. Effectivement, il y en a eu deux changements. Et je crois que, par exemple, le groupe Europe Écologie, finalement, était de passer de 16 à 18 à un moment, mais c'est retombé à 17, et c'était lié à des élections, justement.
Et donc, ce ne sont pas des élections, puisque c'est un scrutin de liste. Quelqu'un. Non,
allié à des élections de gens qui étaient.
Voilà, quelqu'un démissionne et le suivant de la ministre prend sa place.
Oui, et là, c'est pareil, il retrouve, il faut rechercher à nouveau la parité, il faut réappliquer toutes ces règles. Et donc, la manière dont on va distribuer les postes entre les partis.
Alors, cela étant, l'élection a eu lieu, on a vu comment elle avait eu lieu, à quelle répartition elle avait donné lieu. Et maintenant, qu'ont fait ces élus? Ont-ils désigné une commission permanente? Comment ça se passe? Est-ce que le règlement y pourvoit et puis c'est comme ça et pas autrement? On a entendu parler tout à l'heure d'un règlement qui allait impliquer davantage d'assiduité. Qu'est-ce qui s'est pour l'instant passé? Certes, le conseiller régional est plus au fait que les autres, mais enfin, je suppose que les autres partis sont également au fait de ça. Voilà. Donc, Monsieur Pourcel, puisque vous sembliez informé.
Comme je l'indiquais tout à l'heure, la première bonne mesure est vraiment sur l'absentéisme, puisqu'avant, les champions de l'absentéisme, ceux qui veulent beaucoup de mandats sans les exercer, seront connus de tous, puisque la publication des noms sera effectuée en plénière. Donc ça, c'est une bonne mesure, je trouve. Mais on parlait tout à l'heure du cumul des mandats. C'est vrai que je pose la question, enfin, à M. Orcival par rapport à notre présidente, Carole Delga, puisqu'elle est toujours députée. Alors, certes, techniquement.
Elle est toujours ministre.
Oui. Certes, techniquement, c'est toujours possible, mais moralement, ça me paraît indéfendable. D'après le site nosdéputés.fr, Mme Delga n'est allée que 3 fois à l'Assemblée depuis juillet. Depuis le 18 juillet 2015. Alors, cela pose question sur un souci sur le cumul des mandats, mais surtout sur le positionnement que Mme Delga aura, notamment sur le vote de la loi sur la décharge de nationalité. Est-ce qu'elle aura une position de présidente de région où son groupe et ses alliés sont plutôt contre? Ou est-ce qu'elle aura une position de députée plutôt fidèle à M. Valls et qu'elle votera oui? Voilà, donc un petit peu une contradiction par rapport au discours et aux actes, en fait. Voilà.
Ce qu'on est à Paris, ce qu'on est à Toulouse.
Et sans vraiment vouloir polémiquer, c'est juste un fait. Voilà. Et puis juste pour revenir sur les scores, c'est que nous, on a décidé de faire l'union dès le début.
Oui, alors j'allais dire, y a-t-il un groupe UDI, puisqu'on a parlé de groupes divers et variés à gauche.
Ce qui ne nous a pas empêché de faire le plus mauvais score national au niveau de toute la France, notre liste. Voilà, donc. En Aveyron, c'est une vraie contre-performance, puisque la première place que nous avons au premier tour est due plus ou moins quand même à l'effet mécanique de la division de la gauche. Donc c'est une victoire en trompe-l'œil. On voit qu'il y a un net recul par rapport aux départementales et aux listes de 2010. Ce qui veut dire que du coup, l'Aveyron n'aura plus de vice-président, alors qu'on a toujours eu plus ou moins un. Voilà, donc ça pose quand même beaucoup de problèmes, même si nous avons fait l'union dès le départ, ça n'a pas...
Première question, y a-t-il un groupe UDI à la région?
Pour l'instant, non. Mais les instances nationales souhaitent vraiment qu'il puisse y avoir la création d'un groupe UDI.
D'accord. Et deuxième question, mais cette fois à M. Orcival, n'y a-t-il pas de vice-président aveyronnais?
Non, il n'y a pas de vice-président aveyronnais, en effet. La réponse est simple.
Non. Il n'y en a pas, non.
En fait, ce que l'on constate...
Il m'avait semblé que la coutume, quelle que soit d'ailleurs la couleur de la région, était que la tête de liste de la liste qui avait gagné, la tête de liste départementale, dans chaque département, avait une vice-présidence.
Alors, à aujourd'hui, les vice-présidences aussi sont données... par rapport, très certainement, aux compétences qu'il peut y avoir et aux disponibilités pour mener la vice-présidence, et par rapport au nombre de places qu'il peut y avoir, puisqu'on est quand même sur une nouvelle grande région, et donc forcément, c'est un peu plus difficile.
Maintenant, j'ai eu le tort de ne pas compter tout à l'heure, quand j'ai regardé le nombre de vice-présidents, mais il y en a plus que 2 départements.
Voilà. Hein. Mais Maintenant, en ce qui concerne la tête de liste, Stéphane Bérard, il est notamment, par ses compétences, très certainement, président de la commission des transports. Donc, ce qui est quand même quelque chose d'important, parce que je sais que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur pour le désenclavement de l'Aveyron, d'avoir cette présidence commission de la commission de transports. Voilà. Donc, lui est essentiellement sur ce créneau-là, et c'est pour ça qu'il a préféré avant tout s'investir sur cette présidence-là.
Voilà. Alors, ça nous oriente justement sur l'organisation, puisqu'elle a été mise en place, l'organisation des vice-présidences, des commissions, des présidences de commission, la constitution de la commission permanente. Qu'est-ce que vous avez les uns et les autres à nous dire? Est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait? Ça s'est bien passé? C'est le règlement qui règle tout ça ou pas du tout, monsieur Trani?
Oui, sur les, donc sur les 15 vice-présidences pour 13 départements, en fait, la répartition, il suffit de lire hein, la liste des vice-présidents, est faite de façon très politique. C'est-à-dire qu'il y en a 6 ou 7 pour le Parti Socialiste, 3 pour les radicaux de gauche, 3 pour le Parti de gauche, 3 pour Europe Écologie Les Verts. Tout ça n'a rien à voir.
Nouveau monde en commun.
Nouveau monde en commun. À chaque fois que vous changez de nom, monsieur Pesé, comment vous voulez qu'on vous suive?
Non, là, moi déjà, non, je suis déjà vieux. Y a-t-il un groupe Nouveau Monde en commun?
Oui, je sais pas ce qu'il y a un groupe Nouveau Monde en commun.
C'est Les Verts ou
non,
pas?
Non, Nouveau Monde en commun.
Donc un groupe commun, oui. Les Verts, Parti de gauche.
Non, Nouveau Monde en commun.
Non, mais je voulais quand même souligner. Je voulais souligner la capacité de monsieur Cibal à nous proposer la plus redoutable des langues de bois sur la composition des vice-présidences en fonction des compétences de chacun. En fait, il s'agit pas du tout de cela, c'est très politique, pour ne pas dire politicien, et en même temps, chacun a son fromage, puisqu'y compris monsieur Bérard, que vous avez failli traiter d'incompétent, monsieur Orsibal. C'est la présidence de la commission des transports.
J'avais dit ça, au bien au contraire.
Vous avez dit que les vice-présidents sont les plus compétents.
Non, j'ai dit que c'était aussi en fonction des compétences et que Stéphane Bérard avait justement des compétences très certainement avérées pour les transports.
C'est sûr, certainement. Je lui souhaite. Je le souhaite pour l'Aveyron, parce que c'est vrai qu'ici, dans l'Ouest Aveyron, on a quand même eu beaucoup à souffrir de la période Malvie, il faut bien le dire, où tout l'effort de la région était fléché vers la ville de Figeac. Alors aujourd'hui, on espère qu'il en sera autrement, même si, effectivement, le poids de notre département recule, hein, dans une région qui est de toute façon agrandie, où nous n'avons pas de vice-président, et donc même l'élu radical de gauche ici présent ne siège pas à la commission permanente. Donc, voilà, puisqu'il y a plusieurs catégories d'élus, si j'ai bien compris, à la région, c'est quand même redoutablement complexe là aussi. Et il y a ceux qui sont à la commission permanente, qui est la commission importante où les choses se décident, ceux qui siègent à la commission plénière pour faire, disons, les majorités. Et alors même, là, monsieur Onesta a obtenu une dignité, hein, le leader donc de Nouveau Monde, c'est ça?
Oui.
Je ne suis pas trompé?
Non.
Une dignité puisqu'il est président d'un, si bien compris, quelque chose qui a été inventé. C'est, c'est une nouveauté, je veux dire. Un bureau de l'Assemblée, je crois.
Oui.
C'est, voilà. Bon. Donc, si vous voulez, on ne sait pas encore ce que fera la région, mais je pense que de toute façon, pour entrer dans le concret, hein, de quand même, ce qui nous intéresse, c'est que va faire la région. Il va falloir attendre un petit peu, ne serait-ce que le temps que tout le monde s'organise dans cette nouvelle grande région.
On va laisser tout le monde s'exprimer sur la constitution de la commission plénière. Je voudrais juste poser une question. Avant les élections, il avait été fortement question d'un président délégué consolatoire pour Languedoc-Roussillon. Qu'est-ce que c'est devenu?
Je sais pas.
J'avais mal entendu.
Je crois que la campagne du pot de fleurs de Dominique Rény a dû au moins avoir ce mérite, c'est de ne pas rajouter un général à cette armée mexicaine de vice-président. Vous vous souvenez, il se promenait partout pendant la campagne avec un pot de fleurs, illustrant l'invention du président délégué pour satisfaire en particulier le président de la région.
Non,
Languedoc-Roussillon, oui. je crois qu'il n'y en a pas.
Bon, je crois que ça a été abandonné.
En tout cas, le pot de fleurs, ça n'a pas bien marché, visiblement. Donc, il faudra trouver autre chose. Ensuite, juste pour revenir quand même à certaines critiques de M. Tranier que je trouve quand même très... c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On nous explique que tout le monde n'est pas à la commission permanente. Écoutez, à la mairie de Villefranche de Rouergue, tout le monde n'est pas au bureau municipal. Et je pense que c'est exactement la même chose. Tous vos conseillers municipaux ne sont pas au bureau municipal.
Eh bien, vous vous trompez complètement sur ces balles, puisqu'à la mairie de Villefranche de Rouergue, le bureau municipal est ouvert à tous les élus du groupe majoritaire.
Ah, du groupe majoritaire. Voilà. D'accord, ok, très bien. C'est pour ça qu'on ne reçoit jamais l'invitation.
Et vous, okay. Vous êtes invité au conseil municipal en tant qu'élu d'opposition, ce qui est, ce qui est la moindre des choses.
Si je comprends bien, la commission permanente de la région, elle, accueille des conseillers régionaux d'opposition.
Alors, la commission permanente de la région, elle a vocation aujourd'hui à régler la gestion courante, si vous voulez, de la région. À aujourd'hui, par rapport à ce que disait Monsieur Tranier, en effet, moi je n'y siège pas, mais il y a d'autres personnes qui y siègent, et en effet, c'est une répartition qu'il y a eu. Vous avez tout à fait raison.
Je crois que M. Bérard doit y siéger.
Je ne sais pas si M. Bérard y siège. Par contre, je sais en tout cas qu'il y a des collègues aveyronnais qui y siègent parce que j'ai des rapports avec eux. Je sais par exemple qu'Emmanuel Gazel en fait partie et donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. L'Aveyron est bien représenté, ne vous inquiétez pas, dans la commission permanente. Ensuite, c'est aussi une répartition par rapport donc à chaque groupe. Donc, les radicaux en ont un certain nombre, Nouveau Monde en a un autre nombre, et donc il y a un certain nombre de places qui nous étaient allouées. Bon, voilà. Aujourd'hui, ce qui est important de comprendre dans la volonté de la nouvelle région, et je pense que c'est ce qui est à souligner, c'est que le règlement de l'Assemblée, et ça a été très bien été souligné par M. Pourcel notamment, fait référence à l'absentéisme et au combat de l'absentéisme. Et aujourd'hui, clairement, les conseillers régionaux ont vocation à accomplir pleinement leur mandat en siégeant dans les commissions dont ils font partie. Il n'y a pas que la commission permanente, mais il y a également différentes commissions. Il y en a un minimum de 2 par conseiller régionaux, un maximum de 3 pour pas non plus qu'il y ait de l'absentéisme qui soit avéré parce que les gens se chargent trop. Donc moi, par exemple, je fais partie de 2 commissions. Et ensuite, il y a également les organismes extérieurs auxquels il faut siéger. Il y a beaucoup de travail par rapport à ceci. Et donc, chacun doit aller sur différentes fonctions, tout simplement. Donc voilà pourquoi aussi tout le monde n'est pas en commission permanente.
Oui. Monsieur Bourcel.
Non, ce que je regrette justement, c'est que la désignation des représentants du conseil régional dans les organismes extérieurs se soit fait un peu en fin de session, quand il manquait, enfin voilà, c'est quand même un enjeu important. Ce sont les partenaires qui vont travailler avec la région pendant 6 ans au quotidien. C'est souvent là que se prennent les décisions et un peu où sont traités tous les dossiers qui touchent au quotidien nos concitoyens. Donc je trouve que c'est un peu dommage que là, par contre, il n'y ait pas une ouverture plus importante. Parce que je ne sais pas, je pense qu'il n'y a eu que 5 postes pour l'opposition. Et tout le reste pour la majorité, donc, puisque le FN n'a pas participé apparemment à cette élection.
Alors, très bien. Par contre, ce que je voulais quand même souligner, et on peut le voir dans le procès-verbal de l'Assemblée plénière, c'est qu'un nouveau règlement sera à voter d'ici 6 mois et qu'il y a quand même des arbitrages qui pourront être faits. Puisque je sais que M. Régnier, lors d'une de ses interventions, a parlé notamment de la commission finance, notamment de laquelle il était très intéressé, et que donc la porte n'était pas fermée, mais qu'elle restait vraiment ouverte sur un prochain vote qu'il y aura d'ici 6 mois. Voilà, puisqu'il y aura des adaptations à faire.
C'est qu'en principe, la commission des finances est attribuée à l'opposition. La présidence qui arrive en deuxième position. Il se trouve que là, c'est le Front National qui arrive en deuxième position. Donc évidemment, c'est différent.
Il ne faut pas oublier que c'est le premier groupe d'opposition, hein, le Front National.
Voilà.
Parce que,
tout à fait.
Comme on n'a pas parlé de l'abstention, qui était quand même un des grands vainqueurs du premier tour dans notre bilan. Donc,
Oui, mais j'avais indiqué que les voix à se partager entre les listes non représentées et l'abstention, c'était 46 000 voix. Mmh. Et elles ont toutes été absorbé à des degrés divers.
Il y a quand même eu plus de 40% d'abstention encore.
Et même si le Front National n'est pas ce soir représenté, il ne faut pas oublier que c'est le deuxième, enfin c'est le premier groupe d'opposition, bien sûr. Mais c'est le premier groupe d'opposition.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Puisqu'ils ont 40 conseillers 40. Sur 158, ça pèse. Voilà, c'est sûr.
Je crois même que c'est le premier groupe de la région, puisque l'éclatement de la gauche. Je suis pas sûr du chiffre, mais il me semble que le Parti Socialiste est 39 élus et que le Front National soit le premier groupe.
D'ailleurs, on peut quand même remarquer, et ça je tiens à le souligner, que M. Alliot était candidat en cinquième position de la Pyrénées-Orientale, ce qui ne l'obligeait pas à démissionner de ses autres mandats si sa liste n'arrivait pas en tête, puisque du coup il n'était pas élu, et que du coup ça lui permettait d'être candidat à la présidence d'une région, et que s'il ne la gagnait pas cette région, il ne siégeait pas au conseil régional.
Ça, donc, c'est plus gros que Millard, c'est au Front National quand même en France.
Donc je pense qu'il faut le souligner, parce que personne ne l'a encore dit, et je trouve que ça montrait la vision qu'il avait de son mandat au conseil régional. Voilà, donc c'était à souligner, je pense.
C'était dit beaucoup de choses sur la présence, l'absence, le maintien dans différentes candidatures. Donc cette région constituée, comme on vient de la décrire, du moins dans sa constitution politique, on vient de parler de ce qu'elle a fait, et il y a ce qu'il lui reste à faire, il lui reste beaucoup à faire, notamment il lui reste à élaborer un budget pour la grande région. C'est-à-dire qu'il y avait deux budgets, il n'y en aura plus qu'un. Ça va se passer comment? Ça va se passer dans quel délai? Normalement, si je ne me trompe pas, vous avez jusqu'à la fin mai. On augure comment de cette... non, pas jusqu'à la fin mai pour débattre, hein, monsieur Trenier. Le budget, le fusionnement des budgets des deux régions, ça peut poser des difficultés.
Alors forcément, il va y avoir donc une discussion, une présentation de budget. À aujourd'hui, on est sur deux anciennes régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, sur lesquelles il y a une continuité jusqu'au prochain vote du budget. On a pu le voir, notamment cette continuité, elle est de fait, parce que, par exemple, sur le règlement intérieur, avant qu'on approuve le nouveau règlement intérieur transitoire, on était sur celui-là de Midi-Pyrénées, par exemple. Donc forcément, il n'y a pas une naissance de l'institution à aujourd'hui. C'est une continuité de l'institution qui va devoir évoluer d'ici au cours de l'année. On peut prendre différents exemples par rapport à ça, je ne sais pas, mais qui parle peut-être plus aux gens. L'Assemblée plénière en tant que telle n'a pas assez de sièges pour accueillir l'ensemble des conseillers. Ça ne nous empêche pas d'être dans une continuité, d'utiliser ces locaux, mais en utilisant des sièges à l'arrière de manière à rajouter. Donc aujourd'hui, on est encore un peu, on va dire, sur le parti entre guillemets, artisanale, mais qui va se mettre en place durant cette année.
Clairement, on parlait de budget. Alors, le prix des strapontins, je suppose que ça compte, mais on parlait de budget, donc la question claire, c'est la question qui vient quand même à l'esprit de tout le monde, c'est n'y a-t-il pas de doublons? Et qu'allez-vous faire des doublons?
Alors, c'est autre chose.
Quand on fusionne.
Sur les doublons, ça sera forcément un travail qui va être fait au niveau des services pour regarder où c'est qu'il y a des doublons, comment mutualiser au mieux pour faire des économies, puisque quand même le but de cette réforme, c'est de faire des économies. Maintenant,
autour de cette table, il avait été expliqué un jour que ça n'en ferait aucune.
Maintenant, en ce qui concerne les économies qui devront être faites, vous savez comment ça se passe quand il y a forcément deux organismes qui fusionnent. La première année, ce n'est pas la première année où on fait des économies. Parce que bien sûr, il y a tout un tas d'aspects techniques qui font qu'on est sur des doublons, en effet, et que c'est par la suite qu'elles se font, objectivement. Et ça se fera, parce qu'il y aura obligatoirement des mutualisations de services.
Alors, on va venir sur des choses plus, non pas plus amusantes, mais enfin, c'est très sérieux. Mais, par exemple, avez-vous commencé à débattre, ou quelle idée se fait-on dans vos partis politiques, déjà, puisque cette fusion entraîne un choix de siège de la région, un choix de capitale de la région, et un choix de nom de la région. Alors déjà, pour ce qui est du siège, ça se passe comment? C'était prémédité comment chez les candidats, M. Tranier?
Oui, sur la question des économies, effectivement. Tout le monde sait que cette réforme de la carte régionale a été complètement improvisée, imaginée sur un coin de table par le président de la République. Et en réalité, ce qu'on nous présentait comme devant faire des économies n'en fera aucune. Ça va coûter très cher d'ailleurs de tout harmoniser. D'une part. Bon, pour ce qui est après des choix à faire, un certain nombre seront des non-choix, puisqu'il semble qu'on se dirige vers une division, hein, à la fois des services, certains à Toulouse, d'autres à Montpellier, et qu'effectivement ce fonctionnement-là avec une partie de la région à Toulouse, une autre partie, d'autres à Montpellier, sera créatrice de surcoût. Hein, rien que ce fonctionnement-là, qu'on connaît à l'échelle d'ailleurs de l'Europe, hein, avec une capitale à Strasbourg et en même temps à Bruxelles et à Luxembourg, est très coûteuse dans le fonctionnement. Après, pour ce qui est de... Quelle, votre question était sur...
ma question, c'était sur le choix du siège.
Sur le choix du siège, bon, voilà. De toute façon, on se dirige vers...
Vous avez fait une non-réponse.
Si, mais... Dominique Reynier était pour Toulouse, mais entre Toulouse et Montpellier, aujourd'hui, il n'y a pas de choix, on s'en rend compte. Voilà.
Sur ce choix du siège, Monsieur Pezet.
Oui, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis tranché sur des choses comme ça, mais il me semble que... on pouvait critiquer
qu'est-ce qui se disait parmi les candidats dans la liste.
Ils s'en disaient rien spécialement, puisque je crois pas que c'était quand même ce dont on nous parlait, ce qui nous préoccupait. Je pense qu'il y a quand même des choses assez préoccupantes en France, d'autres que le choix du siège de ces régions. Ces régions,
il a bien dit Pyrénées, c'est pas en France.
Oui, mais on est quand même confronté à un des plus hauts taux de chômage, enfin, dans la région, hein, comme vous savez, de France, et il y a quand même des préoccupations sociales, des préoccupations environnementales, des préoccupations même politiques, avec cette forte présence du Front National, qui me semble passer un peu avant la question du siège. Ensuite, ces régions, je n'étais pas spécialement favorable non plus à ce qu'elles se fassent comme ça, mais il y a longtemps maintenant que droite et gauche traditionnelles, l'UMPS, nous disent qu'il faut faire plus grand les communautés de communes, plus grand les régions, pour les mettre en compétition, pour qu'elles soient plus compétitives.
C'était une revendication de longue date du président Malvy. Hein.
Oui, mais bon, aussi, oui, mais moi, c'était pas spécialement ce qui m'intéressait dans ce genre de proposition. Je ne crois pas à cette politique qui ne vise qu'à mettre des ensembles soi-disant plus forts en compétition et qui, au détriment de ce qui serait peut-être la solidarité, et de penser un petit peu autrement, même à l'échelon national, le rôle des régions, sinon que de les opposer. Donc après, Toulouse, c'est plus grand que Montpellier. Il y a un partage apparemment de certains services. On nous a dit le rectorat à Montpellier, je crois, bonne chose comme ça. Et c'est peut-être aussi purement du réalisme, ça. Je sais pas comment faire vraiment autrement.
Le rectorat n'est pas créer une administration d'État. C'est pas la région, elle gère certes les lycées, mais pas par le rectorat. Monsieur Pourcel, sur cette localisation capitale.
Pour moi, ce serait naturellement Toulouse, mais je pense qu'il faut. Enfin, c'est comme sur le nom de la région, il faut.
Mais vous n'avez personne que.
Il faut aller vite. Il faut
que ce soit Castres.
Non, mais on va pas faire central. On va pas construire un Brésilien entre Slésignan et Carcassonne, plus central, avec un hôtel de région encore qui va coûter très cher et
beaucoup recommencer. D'architecture.
Mais oui, voilà.
Je pense que ce qui est important, c'est d'aller vite, comme le nouveau nom de la région. Est-ce qu'il y aura un référendum populaire pour choisir le nouveau. Voilà, nous on avait dit que à l'UDI que Languedoc Pyrénées pouvait être pas mal parce qu'il avait le mérite d'associer la langue et le territoire. Voilà, je pense que c'est dossier sur lequel il faut aller vite parce qu'après il y a tellement de choses à harmoniser dans nos deux régions au niveau de la carte grise, au niveau de la formation professionnelle, de l'emploi, l'agriculture,
la
culture, les transports, le TER, les rails. Ticket move d'un côté, ticket à 1 euro de l'autre. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à harmoniser. Donc il faut aller vite, il faut se dépêcher. Chaque région avait signé le contrat de plan État-région avant. Donc, est-ce qu'ils vont le garder? Comment ils vont fusionner? Chacun va vouloir défendre ses priorités qu'il avait déjà négociées il y a un an. Voilà, donc je pense qu'il faut aller vite. Parce que déjà, il y a des gens qui attendent les décisions pour voir comment ils vont faire au quotidien. Donc, c'est impact sur la vie de nos concitoyens. Donc, il faut aller vite au travail.
Monsieur Sibal, alors sur la localisation de la capitale ou la non-localisation de la capitale et du siège de la région,
bah écoutez...
et puis sur le travail qui s'annonce effectivement, dont, Monsieur Pourcel nous a parlé.
Parlons un petit peu du travail quand même, parce que depuis le début on parle beaucoup de chiffres, de négociations.
On ne peut pas évoquer tout le travail de la région, non, par contre on peut évoquer la façon dont elle s'organise pour le faire.
La nouvelle région a des grosses, grosses compétences, il faut vraiment, je crois, mettre le doigt dessus, montrer aux gens que les élus sont là pour travailler, dans l'intérêt général, et qu'on n'est pas là parce que depuis le début on parle un peu que des postes, et de la petite cuisine interne, je pense qu'il faut parler de concret, et voilà, Monsieur Arcival qui est élu va pouvoir peut-être nous expliquer un petit peu...
Voilà, donc très concrètement, je vais parler à la fois de votre question et à la fois du travail, comment il s'organise. Sur le siège, honnêtement, à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelque chose de défini, mais en tout cas, ça sera un arbitrage qui devra être fait de la part de Carole Delga sur une proposition qu'elle fera justement à l'Assemblée plénière. Maintenant, ces arbitrages, ça a été très bien dit, c'est sur une multitude de domaines qui devront être faits parce qu'il y aura une harmonisation à faire entre les différentes réglementations des deux anciennes régions. Donc forcément, c'est un travail qui va être global et qui ne va pas se limiter simplement au siège de la région. Après, il y a quand même une question de rationalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire non plus de nouveaux bâtiments. On est dans un domaine aujourd'hui, au contraire, où on cherche à faire baisser les coûts, à mutualiser, comme on l'a dit, et donc c'est également valable pour les bâtiments où ils vont être utilisés dans le cadre des fonctions de la région. Je prends un exemple sur les commissions et sur les travaux qu'on doit faire en commission, puisque c'est justement ça le cœur de la région, c'est de travailler sur les sujets dont on a la compétence. Bien aujourd'hui, on ne va pas demander aux conseils régionaux, par exemple, moi-même à Villefranche-de-Rouergue, d'aller tout le temps à Montpellier. Non, il y a quand même une facilité sur Toulouse, et donc on aura de la vidéoconférence pour pouvoir justement traiter ces dossiers de travail et être dans la rationalité. Ne multiplions pas les coûts, mais servons-nous de ce qu'il y a déjà avec les moyens que la technologie nous apporte, tout simplement. Et la vidéoconférence est aujourd'hui à l'ordre du jour pleinement.
Il nous reste 3 minutes. On a peu parlé du nom. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un rapide tour de table sur le nom? Voilà, M. Pourcel s'est prononcé. Monsieur Arcival, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se concocte? Qu'est-ce que vous aimeriez?
Alors, Carole Delga, par rapport à ceci, une consultation qu'elle veut citoyenne. Donc, à aujourd'hui, on est quasiment 6 millions d'habitants. C'est 1,7 million, je crois, au sein de la grande région. Elle aimerait qu'il y ait, d'après ce qui se dit, 1 million de participants pour que cette consultation puisse peser. Bon, on verra bien. Moi, je vois qu'il y a eu sur différents journaux qui couvrent la région des consultations. Occitanie ressortait devant. Et c'est vrai que Occitanie me paraît quelque chose d'assez intéressant, même si je sais que les Catalans aimeraient ressortir beaucoup plus dans l'appellation.
Monsieur Tranier.
Oui, alors... Jusqu'à présent, le grand gagnant dans cette réforme des régions et à la suite de cette élection, c'est la cuisine entre les partis politiques. Ça, on a pu effectivement s'en rendre compte à longueur d'émission. Et le grand oublié, c'est quand même les habitants du territoire, les projets concrets à mener. Et moi, j'ai quand même un grand regret, c'est que dans cette campagne, pas une seule fois, M. Arcival, qui était le candidat sur la liste de l'Ouest Aveyron, ait parlé de projets locaux, mais qui sont décidés au niveau de la région. Je pense par exemple à l'école d'infirmières, qui est quand même à Villefranche quelque chose dont on a grand besoin et grand envie.
Vous voulez que la région s'appelle l'école d'infirmières?
Non, mais je voudrais qu'on ait une école d'infirmières à Villefranche-de-Rouergue. Rien de concret sur les routes, sur les liaisons routières qui sont tellement importantes dans notre territoire enclavé. Et puis, alors pour ce qui est de la région... et de son nom. Bon, puisque c'est important, un nom, ça doit être à la fois le signe d'une identité, et puis aussi, ça doit être aussi une marque, quelque chose d'attractif. J'aime bien l'Occitanie, oui. Mais puis Languedoc, enfin en tout cas ça doit faire sens. Et Languedoc-Pyrénées fait sens aussi et permet de n'oublier personne.
Pas Occitanie-Catalogne, notre région, comme il avait été dit, pour pas fâcher les Catalans, bien sûr aussi.
Occitanie-Catalogne permet aussi
de faire aussi un pont vers la grande région européenne et donc qui est associée.
Et bien donc on a retenu qu'on aura une consultation. Je ne demande pas à Monsieur Pourcel puisqu'il s'est exprimé. Et donc je conclue ce table ovale de la première de l'année, le table ovale qui réunissait donc autour, Christophe Pourcel pour l'Union des démocrates indépendants, qui pesait pour Europe Écologie Les Verts, Jean-Sébastien Orcibal pour le Parti Radical de Gauche, Laurent Tranier pour Les Républicains, et au milieu de tout ce monde, Claude Dezin, comme d'habitude. Ce sera dans un mois à Rodez. Merci, à bientôt.
Merci,
au revoir. CFM. Rue Marcelin Fabre, 92. L'Esprit Rock.